Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et toute l'équipe de l'heure du crime, fidèle au poste bien sûr, pour une nouvelle édition de cette émission consacrée, on le disait il y a un petit instant aujourd'hui, à un tueur en série extrêmement mystérieux. Perrine Suquet est là bien sûr, entourée de Marc Bisset, de Serge Mariani, de Kevin Collin, enfin de toute l'équipe en tout cas qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions. Près de moi c'est Virginie qui vient d'arriver pour mon plus grand bonheur. Bonjour.
C'est gentil, bonjour Jacques. Et avant justement d'ouvrir à l'affaire d'aujourd'hui qui date des années 60-70, si les auditeurs ont des questions à poser sur cette affaire ou encore si des spécialistes de cryptologie peuvent apporter leur lumière, 3210 ou un petit mail en passant par la page de l'heure du crime sur rtl.fr.
Alors ça c'est bien vu, hein, les spécialistes des messages secrets, vous ne devez pas faire autre chose que d'écouter cette émission jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi. Pour une histoire aussi mystérieuse, il nous fallait évidemment le spécialiste des tueurs en série, c'est Stéphane Bourgoin que tout le monde connaît bien et qui publie régulièrement des enquêtes stupéfiantes sur ce monde particulièrement à la fois inquiétant et fascinant. Bonjour Stéphane Bourgoin.
Bonjour Jacques.
Et je rappelle votre actualité, c'est le livre, le gros livre que vous avez fait paraître l'été dernier chez Grasset, qui devient une sorte de bible maintenant. Serial Killer, enquête mondiale sur les tueurs en série. D'abord un livre qui a eu le mérite de montrer qu'il n'y a pas que les États-Unis, l'Angleterre ou la France ou quelques pays d'Europe. Presque tous les pays ont les tueurs en série, j'allais dire, qui méritent.
C'est un phénomène universel et pour ce livre, j'ai eu la collaboration notamment du colonel de gendarmerie Joël Vaillant qui a parlé des problèmes liés
tueurs en série français,
à la détection
parce que,
des tueurs en série français.
On a mis longtemps à accepter l'idée qu'on avait nous aussi nos tueurs en série. Dans ce livre, et là je reviens au sujet d'aujourd'hui, vous parlez évidemment du Zodiac. Alors, on va commencer. Si vous n'avez jamais entendu parler du Zodiac, moi j'ai dressé la fiche d'identité de ce personnage mystérieux. Vous me direz c'est gonflé puisqu'on ne sait quasiment rien de lui, mais je vais vérifier tout de suite avec vous ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Alors d'abord le nom, inconnu bien sûr.
Zodiac, c'est lui-même qui l'a inventé dans une de ses missives qui date de 1968. Après un double meurtre qu'il a commis.
Alors je raye nom et je mets surnom. Né-le.
On a un portrait robot de lui, hein, puisqu'il y a quand même eu deux victimes qui ont survécu, deux jeunes hommes, un policier qui l'a croisé à San Francisco après un des meurtres, et trois autres adolescents. Donc, à partir de là, et une victime aussi d'une tentative d'enlèvement.
Alors, on pense qu'il s'agit d'un homme de un peu moins d'une quarantaine d'années. Hein.
Oui, on pense qu'il a aux alentours d'une trentaine d'années en 1968.
Ouais, la
taille. Donc, ce qui lui fait, s'il est toujours vivant, un peu plus de 70 ans.
Mmh.
Il mesure à peu près 1m70, 1m73. Mmh. Il est très costaud, avec une coupe en brosse militaire. Un menton assez carré et des lunettes à forte monture, monture d'écaille.
Et il chausse vraisemblablement du 44, mais ça on va en parler tout à l'heure.
Et on possède aussi d'autres éléments de preuve. On a des enregistrements qui sont peut-être sa voix lorsqu'il a appelé un show télévisé en 1969. On a une empreinte partielle qui a été retrouvée sur un téléphone d'une cabine publique.
Une empreinte de paume.
D'une paume, oui. Et ce téléphone existe toujours, hein, au sein de la police de San Francisco, notamment dans le comté de Vallejo.
Et il envoyait des lettres assez particulières, mais ça, on expliquera tout à l'heure pourquoi on reconnaissait pratiquement à coup sûr que la lettre venait du Zodiac, mais cette lettre comportait des timbres, peut-être des timbres avec de la salive, et en tout cas, il y a eu des tests ADN faits sur les suspects pendant plus de 10 ans, sans succès malheureusement.
On sait qu'il y a 21 lettres, dont on estime que 18 sont authentiques et ont été écrites par le tueur lui-même. Et d'ailleurs, j'ai reçu, il y a à peine quelques mois, un mail du shérif du comté de Napa qui m'expliquait, parce que je lui avais écrit, j'avais lu qu'il était responsable de la cold case des affaires classées du comté de Napa, qui réexaminait notamment un meurtre et une tentative de meurtre sur une jeune femme, où là on a des liens qui ont été conservés avec de l'ADN qui figure dessus.
Peut-être l'ADN du Zodiac.
Peut-être l'ADN du Zodiac et sur les vêtements de la victime. Et avec les progrès de l'ADN, Ils ont été envoyés il y a à peine quelques mois à un laboratoire pour voir si on peut en prélever un ADN masculin et le comparer avec le fichier d'empreintes génétiques au sein du FBI qui est le CODIS et qui contient plusieurs millions d'individus.
Mais malgré tout ce qu'on vient de dire, c'est un immense point d'interrogation. Alors ce qu'on sait officiellement en tout cas, c'est le nombre des victimes. Là aussi, il est très discuté parce que lui-même en a revendiqué 37 par lettre.
Oui, dans son dernier courrier qui date du 24 avril 1978, il est signé par ce symbole d'un cercle avec une croix qui ressemble à une cible, qui est la signature du zodiaque, où il écrit « Mi », donc « moi », 2.37, ouais. SFPD 0, comme un score de football américain.
SFPD, c'est
moi, San Francisco Police Department 0, voilà. Et il revendique 37 victimes.
Voilà. Alors, vous pensez, et on y reviendra tout à l'heure plus en détail, mais disons-le tout de suite, qu'il est responsable d'au moins 6 morts, plus deux personnes qui auraient dû mourir aussi, mais qui ont survécu. Et peut-être a-t-il été également l'auteur d'un autre crime qui aurait précédé, qui aurait été un peu le starter de tout ça.
Oui, parce que pour les policiers, en tout cas, il y a 5 meurtres absolument certains. Donc pour les policiers, c'est entre 1968 et 1969. Mm-hmm. Le 11 octobre 1969, c'est le dernier meurtre, celui d'un chauffeur de taxi à San Francisco.
Et pardonnez-moi, 2 victimes avérées également, ce qui porte à 7 en tout cas le nombre de ces victimes.
Oui, ces 2 victimes ont survécu.
Parce qu'il s'agissait de membres d'un couple, la femme par exemple est morte et le garçon a survécu.
Ce qui est caractéristique d'ailleurs dans les crimes du Zodiac. Pourquoi ces 2 jeunes hommes ont survécu ? Parce qu'apparemment, ils s'acharnent moins sur les hommes que sur les femmes.
Mais il a quand même tué un chauffeur de taxi. Alors, on se posera... C'est une histoire absolument passionnante que nous allons continuer à vous raconter avec Stéphane Bourgoin. Et dans un petit instant, on va vous raconter les circonstances du premier double meurtre connu du Zodiac. Quel était son mode opératoire ? Et puis, cette étrangeté qui a ravivé l'intérêt du public et la fascination du public et des enquêteurs. Ce tueur ne se contentait pas de tuer, il écrivait également à la presse et à la police. A tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Qui était ce mystérieux tueur en série appelé le Zodiac ? C'est comme cela d'ailleurs qu'il s'appelait lui-même dans les lettres qu'il écrivait à la police ou à la presse de la région de San Francisco. Qui est cet homme qui a tué au moins 5 victimes et fait 2 blessés graves, donc qui a fait au total 7 victimes, mais peut-être 37 ? Y a-t-il des meurtres que la police n'a jamais réussi à lui attribuer ? Et puis, grande question, que disaient les cryptogrammes qu'il envoyait, c'est-à-dire les messages codés, les rébus qu'il envoyait aux journaux. Un seul a été décodé sur 4. On en reparle dans un petit instant, évidemment, avec Stéphane Bourgoin. Puis on s'interrogera de savoir aussi pourquoi ce tueur en série a brutalement cessé de tuer après un certain nombre de nouveaux courriers qui débouchent sur cet arrêt brutal, qui débouche sur une explication peut-être un peu fantasque, mais qu'on se réserve de dévoiler à la fin de l'émission. Alors, Stéphane Bourgoin, vendredi 20 décembre... 1968. On est donc dans cette région de San Francisco, au bord d'un lac, et il y a une route qui fait le tour du lac qui s'appelle Lake Herman Road. Et là, sur le parking qu'on appelle dans le coin le parking des amoureux, il y a 2 jeunes gens, ils ont à peine 17 ans, qui ont choisi de venir là pour s'embrasser et pour se compter fleurettes. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui arrive.
Oui, il s'agit d'un jeune couple, David Faraday, Betty Lou Jensen. Et comme souvent les couples d'étudiants, de collégiens dans cette région, pour échanger des baisers et autres, vont dans cet endroit qui est surnommé le parking des amoureux.
Puis on a le permis de conduire avant les Européens, hein. Donc oui. On peut commencer tôt.
Et donc, apparemment, d'après les constatations de la police qui ont été effectuées, puisque aucun des deux n'a survécu, un véhicule s'est d'abord approché du leur, a stoppé, a redémarré, et puis est revenu...
En marche arrière,
pour s'installer quasiment en parallèle de leur véhicule. Et d'après le mode opératoire de certains des autres meurtres, puisqu'il n'y a pas de témoin, ce que le tueur a dû effectuer, sortir de son véhicule, il braque une lampe torche extrêmement puissante au travers du pare-brise et tire immédiatement.
Les jeunes pensent que c'est un contrôle de police,
un contrôle de police peut-être.
Voilà. Il tire, il les abat. Il y a quand même un témoin dans la voiture Impala, c'est à ce moment-là quand même. Enfin, il y a des gens qui voient rôder cette voiture.
Il y a des gens qui voient rôder ce type de voiture, mais rien ne permet de dire que c'est véritablement la voiture
du tueur
qui est totalement inconnu à ce moment-là.
Alors évidemment, la police fait des hypothèses. On pense qu'il y a eu un deal de drogue, que le garçon qui a été tué avait trop parlé, enfin bon, etc., que c'était un règlement de compte. Bon, et puis six mois plus tard, le samedi 4 juillet 1969, encore sur un parking d'un golf cette fois, un nouveau drame.
Oui, c'est à nouveau un couple de jeunes qui ont un peu moins d'une vingtaine d'années, Michael Majot et Darlene Ferrine. Alors là, aussi des armes à feu, mais d'un calibre différent de ce qui s'est déroulé 6 mois plus tôt. Ouais. D'ailleurs, tous les crimes sont quasiment commis avec des armes à feu différentes.
Ouais. Ce qui soit des cartouches différentes. Hein, c'est-à-dire ça peut être la même arme à feu, mais avec des cartouches de calibre différent.
Mais on est au moins sûr qu'il y a deux armes différentes dans tous les crimes.
Ouais.
On pense qu'il y a un Luger, un calibre 22, un 9 mm qui ont été utilisés pour les crimes.
Alors, cette fois, il va y avoir quand même un événement qui va permettre aux policiers d'avoir une première description physique de l'assassin.
Tout à fait, puisque Michael Majot survit à ses blessures extrêmement graves. Il a d'ailleurs reçu moins de balles que la victime féminine, ce qui est assez typique de l'acharnement du tueur du Zodiac sur les victimes féminines, et qui peut être d'ailleurs un indice en soi. On en parlera peut-être plus tard dans le profil du tueur.
Absolument. Alors, ça se passe le soir, donc le samedi 4 juillet 69, 0h40. Coup de téléphone au bureau de police, tout proche, une voix d'homme mécanique qui dit « voilà, c'est moi ». Et qui ajoute « j'ai aussi tué les gosses l'an dernier ». Et c'est pour ça qu'on relie ce meurtre du 4 juillet à celui du 20 décembre 68.
Tout à fait. Maintenant, la police estime qu'il y a véritablement un tueur en série, parce que le mot serial killer n'existe pas encore à l'époque, qui est à l'œuvre et qui a commis au moins 3 meurtres et une tentative. Et en plus, là, on a le mode opératoire du tueur qui est décrit par la victime masculine qui survit à ses blessures.
Il n'y a pas eu de sommation non plus. Il s'est mis à tirer brutalement.
Non, mais par contre, on sait que le couple, avant de se rendre sur ce lieu, est suivi par un véhicule qui, à un moment, fait semblant de les doubler. Et le conducteur se tourne vers les passagers du véhicule, les futures victimes. Et Darlene Ferrine dit à son compagnon « Ah tiens, je pense que je le reconnais ».
Et c'est aussi un indice, évidemment, sur lequel les policiers ont travaillé sans succès, malheureusement. Mais
voilà. Et elle lui dit « Ne t'inquiète pas, le véhicule déboîte et continue à les suivre avant de ralentir totalement ». Et elle ajoute qu'il s'agit d'un certain Paul, entre guillemets, qui semble-t-il la harcelait depuis déjà une période d'à peu près 6 mois.
Voilà, alors cet homme a été, mais ça vous nous raconterez ça tout à l'heure quand on passera au chapitre des suspects, il y avait des bonnes raisons d'arrêter ce Paul. Il était un excellent candidat à être le Zodiac, mais un certain nombre d'examens ensuite de police scientifique ont montré qu'il ne pouvait pas être le tueur en série. Donc là, ce qu'on vient de raconter, c'est le samedi 4 juillet 69. On rajoute un petit élément avant la pause. Le 31 juillet du même mois, donc, 69, 3 journaux de la région vont recevoir une drôle de lettre. C'est le San Francisco Examiner, le San Francisco Chronicle et le Vallejo Time Herald qui reçoivent à la fois une lettre de revendication, quoi, finalement, mais accompagnée d'un message incompréhensible, c'est-à-dire d'un cryptogramme.
Oui, un cryptogramme qui sera lui, par contre, partiellement décodé.
Ça, on en parlera.
Oui.
Et d'autant plus décodé que dans sa lettre, donc, il revendique les meurtres, il explique comment il a fait. D'ailleurs, il enverra d'autres lettres parce qu'il considérera que ceux qui doutent qu'il soit bien l'assassin vont être obligés d'admettre que c'est bien l'assassin qui écrit aux journaux parce qu'il donne des détails que seule la police connaît. Et cet homme ajoute à cette lettre et ce cryptogramme, mon identité est dedans. Alors, que s'est-il passé? Qui a décrypté au moins l'un des quatre pictogrammes qui arriveront dans les mois qui suivent? Réponse et révélation de Stéphane Baumgoin dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et nous parlons avec Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, dont je vous recommande d'ailleurs très vivement le livre qu'il a publié l'été dernier chez Grasset, une sorte de bible où il parle bien sûr de l'histoire du Zodiac, mais également des tueurs en série à travers le monde. Donc on parle du Zodiac, ce mystérieux tueur qui s'est mis brutalement en 1968, peut-être avant, mais ça on y reviendra tout à l'heure à la fin de l'émission, à tuer gratuitement, tuer sauvagement, tuer de façon perverse, quoi. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas. On a l'impression que les gens sont surtout des numéros qui n'existent pas et pour lesquels il n'a aucune compassion. Et cet homme-là, dont on possède quelques descriptions physiques, dont un portrait robot a été fait, malheureusement échappe toujours à la police parce que, je poserai la question à Stéphane Bourgoin dans un instant. Je crois qu'il a eu de la chance, beaucoup de chance. Mais ça, on verra ça dans un des meurtres suivants. Et puis, il y a ce côté défi. J'écris à la presse, j'écris à la police, je fais les comptes comme un match de foot, moi 7, San Francisco Police Department 0. Et ces textes codés dont on a parlé il y a un petit instant. Alors, il avait bien dit, je le rappelle, avant de vous laisser nous dire que dans quelles circonstances une partie de ce message a été décodée, Stéphane Bourgoin, il disait bien « dans le message » et mon identité.
Il mentait.
D'accord.
Puisqu'en fait, il ne donne pas son identité. Mais il indique le but et le mobile de ses meurtres. Il indique très clairement...
Ouais. Vous voulez que je cite ou...
Oui, allez-y, ouais. Oui.
J'aime tuer des gens parce que c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux. De tous tuer... quelque chose me donne l'expérience. Alors bon, la plus excitante, c'est encore meilleure que de se faire une fille. La meilleure partie est lorsque je mourrai, je renaîtrai au paradis et tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donnerai pas mon nom parce que vous essaierez de me ralentir ou de m'empêcher de collecter des esclaves pour ma vie après la mort. Bon, un texte totalement décousu, totalement illuminé.
Tant que ça, parce que collectionner des esclaves, il le reprend dans plusieurs textes, et la chasse, notamment la chasse à l'homme, c'est assez essentiel. Et je me suis rendu compte, en lisant les textes du Zodiac, qu'il ressemble quasiment mot pour mot à une des nouvelles les plus célèbres de la littérature américaine, qui est due à un auteur qui s'appelle Richard Connell, qui ne vous dira rien.
Non, mais le titre...
Le plus dangereux des gibiers, mais qui a servi en tant qu'adaptation au film extrêmement célèbre, The Most Dangerous Game, qui est connu en France, sous La chasse ou les chasses du comte Zaroff, par les réalisateurs de King Kong, et qui est un film où un comte dément lâche des gens dans la forêt pour ensuite les traquer et les collectionner comme des trophées de chasse.
Alors c'est un centre de l'armée américaine, des communications navales de l'île de Skaggs, qui avait travaillé sur le cryptogramme, donc on peut penser que, en tout cas, ça correspond à quelque chose, c'est pas fantaisiste, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin en disant « j'ai décrypté le Zodiac », sauf que y a trois messages cryptés et qu'il n'y en a qu'un qui sera jamais décrypté.
Oui, en fait, les trois qui ont été envoyés aux journaux, c'était en fait la même lettre, en trois parties différentes. Ceux-là ont été décryptés. Par contre, d'autres messages envoyés par la suite, notamment peut-être le plus célèbre qui comprend 340 symboles, n'a jamais pu être décrypté par les plus grands spécialistes au monde, ni par le FBI, ni par la CIA. Et donc, ça reste à ce jour toujours un texte non élucidé du Zodiac.
Alors, on a l'impression que ça s'accélère, ou que les pulsions, si pulsions il y a, le poussent à tuer de plus en plus souvent, puisque là, on était donc avec ce décodage en juillet août 69. 27 septembre, là, il va se passer un certain nombre de choses, et il va y avoir des témoins, parce que certaines personnes vont échapper au tueur. Ça se passe au bord d'un lac, le lac Berryessa, et les premières à être persuadées d'avoir été au contact de l'assassin, c'est dans l'après-midi, c'était deux jeunes campeuses.
Deux jeunes campeuses qui semblent apercevoir une silhouette.
Elles se sentent observées. Quoi.
Oui, qui les regardent, qui est cachée dans des arbres qui bordent le lac, qui se sentent extrêmement mal à l'aise, hein, ouais. Et qui par la suite décantent.
Ouais, elles ont eu chaud.
Peut-être penser que c'est le tueur du Zodiac.
Qui était là, déjà en train de guetter.
Qui était peut-être en train de guetter ses proies.
Et quelques heures plus tard, en soirée, arrive un jeune couple, et là, ça va être le drame.
Brian Hartnell et Cecilia Shepherd. Et c'est probablement le double crime. Enfin, Brian Hartnell a survécu.
Et c'est pour ça qu'on sait ce qui s'est passé.
Voilà. Mais c'est probablement le crime le plus important du Zodiac. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une véritable mise en scène.
C'est une scène de cauchemar.
Tout à fait. Le tueur apparaît complètement déguisé, alors qu'il ne l'avait apparemment pas fait jusqu'à présent. Il est revêtu d'une sorte de chasuble de templier, avec ce fameux symbole dont il va signer ses lettres qui est sur sa poitrine, ouais. Un cercle avec une cible en forme de croix.
Et sur la tête, une cagoule.
Une espèce de cagoule, mais qui ressemble un peu à un masque aussi de croisé ou de templier. On ne sait pas si c'est du carton ou un tissu renforcé. Avec des trous pour les yeux et des lunettes noires par-dessus cette cagoule où il y a des symboles occultes.
Voilà, donc une scène de cauchemar. On va faire une pause parce qu'il faut prendre le temps de vous raconter ce qui s'est passé ensuite. On le sait grâce à ce garçon qui a survécu. Sa malheureuse compagne est morte. Et malgré les détails que ce garçon a donnés, ça a relancé bien sûr l'enquête de la police. Mais encore une fois, le Zodiac a échappé à ses poursuivants.
L'heure du crime sur RTL.
La traque du Zodiac, on en parle avec Stéphane Bourgoin. On va revenir un peu plus longuement maintenant, Stéphane Bourgoin, sur cette scène épouvantable, scène de cauchemar qui s'est déroulée le 27 septembre 69 au bord du lac Berryessa et dont ont été victimes un jeune couple, la jeune femme, Cecilia Shepherd est morte. Brian Hartnell, malgré ce qui s'est passé, que vous allez nous raconter, a réussi à survivre, on se demande comment d'ailleurs. Il faut dire que, d'abord, il voit cet homme qui les observe, comme les campeurs de l'après-midi. Puis l'homme semble s'éloigner, comme s'il était en train de se balader. Et puis, il disparaît dans les forêts. Et c'est là où il revient brutalement, costumé, comme vous l'avez décrit il y a un instant. Et ce qui suit va durer très longtemps.
Oui, il va rester très longtemps. Cette fois-ci, il n'utilise pas d'arme à feu. C'est une arme blanche. Alors, il prétend qu'il va...
Une sorte de baïonnette.
Une sorte de baïonnette avec un fourreau qui pend à une sorte de ceinturon sur sa chasuble qui ressemble à celle d'un croisé du Moyen-Âge.
Ou du Ku Klux Klan.
Oui, ou du Ku Klux Klan. Sauf que ce n'est pas une cagoule véritablement du Ku Klux Klan. Hein. Alors, il prétend que...
Il leur parle.
Oui, il parle assez longuement avec eux. Il prétend s'être évadé, qu'il a besoin d'aller au Mexique. Qu'il a besoin de leur argent et de leur véhicule. Donc pour s'enfuir. Et là, du coffre de son véhicule, ce qui paraît curieux puisqu'il dit qu'il a besoin du véhicule. Ouais. Or, ils l'aperçoivent, les deux jeunes gens, ouvrir son coffre et prendre des liens déjà préparés en plastique fil électrique renforcé.
Et il oblige le garçon à attacher la fille ou...
Voilà, il l'oblige, Brian, à attacher sa petite amie Cecilia. Et il l'oblige d'ailleurs à recommencer, à refaire les liens, parce qu'il trouve qu'ils ne sont pas assez serrés.
Ouais.
Et du coup, après, il attache aussi Brian Hartnell. Il continue à leur parler. D'une voix qui est assez grave, tout en les rassurant. Et puis tout d'un coup, il reste un moment silencieux, et là, son humeur semble complètement changer, et il dit qu'il a absolument besoin de les poignarder.
Alors, c'est très important de redonner exactement la phrase prononcée, les phrases prononcées par Zodiac. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Il leur dit « Je vais devoir vous poignarder ». Maintenant, je vais devoir vous poignarder. Et il dit ça en regardant la jeune Cécilia. Brian, lui, dit, écoutez, c'est insupportable, poignardez-moi d'abord. Et c'est ce qu'il va faire. Et il va s'acharner sur les deux. C'est par centaines qu'on compte les coups de couteau. Enfin, il me semble,
non,
sur le
moins
corps
que
de la...
ça, c'est...
Ah bon, enfin, des dizaines, en tout
oui,
cas.
Oui, oui.
Dizaines de coups de couteau.
Brian, lui, ne reçoit, je crois, que 5 coups de couteau.
Ah bon, oui.
Cécilia, par contre, c'est 3 fois plus, et chacune de ses blessures est quasiment mortelle.
Bah, donc,
mais ne meurt pas sur le coup. Hein.
Ouais. Alors, bon, voilà, donc cette scène qui va être racontée, parce que par miracle, Brian va survivre. Ça va donner lieu à un nouveau portrait robot. Hein,
et aussi, 2 choses importantes, après le meurtre... il téléphone aux autorités,
comme j'allais dire, comme
au commissariat de police qui est proche du lac,
ouais. Pour dire vous trouverez 2 cadavres, voilà. 2 jeunes gens assassinés, c'est moi.
Et quand les policiers arrivent sur les lieux, les 2 victimes sont encore survivantes. Hein. Cécilia décédera à l'hôpital. Et par contre, fait très important aussi. Sur la portière du véhicule du jeune couple, il a écrit un message
au feutre noir,
avec les dates de ses meurtres précédents. Alors là, maintenant, avec Valero écrit, la date de 68 de son double meurtre, de l'autre aussi. Donc la police, maintenant, est absolument certaine qu'elle a affaire au même tueur en série pour ses 3 tentatives et double meurtre qui ont été commis.
Alors, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que effectivement, il a continué à écrire à la presse, que en lisant des détails dans la presse qui n'étaient pas exacts, il a rectifié en disant voilà comment j'ai procédé, la fenêtre, je n'ai pas ouvert la portière de telle voiture, j'ai tiré parce que la fenêtre était ouverte du côté du conducteur. Enfin, et tout ça, évidemment, les policiers savent que c'est exact. Donc, c'est déjà une réponse à des questions qu'on peut se poser autour de cette affaire mystérieuse, ce qui va falloir commencer à répondre, essayer de répondre à certaines questions. Toutes les lettres du Zodiac ne sont peut-être pas de lui, ça, hein, on va y revenir, mais un grand nombre, quand même, sont bien authentiques, quoi.
On pense qu'il y a 18 missives authentiques sur les 21, et on pense qu'au moins une des lettres a été écrite. C'est assez incroyable. Par l'inspecteur Dave Toshi, voilà. Qui fait partie de l'unité chargée d'enquêter sur les crimes du Zodiac.
Voilà, on s'est demandé pourquoi ce policier avait fait ça. Alors peut-être parce qu'il voyait l'enquête s'enterrer, il avait envie que ça reparte, et pour la faire repartir, il s'est servi lui-même. Il a écrit à la presse dans l'espoir que la police allait mettre le paquet. Alors, on va peut-être faire une pause brève pour avoir beaucoup de temps ensuite pour la dernière partie de l'émission, parce qu'il faut qu'on vous raconte encore le dernier meurtre, ce dernier meurtre officiel en tout cas, du Zodiac, les conditions de ce meurtre, sa différence avec les autres, et puis commencer à s'interroger, évidemment, sur les hypothèses qui ont été émises tout au long de cette histoire-là, avec à un moment un événement bizarre après 10 ans de silence, mais on y reviendra tout à l'heure, 1990, nouvelle lettre, je suis de retour, je suis le Zodiac, mais cette lettre, elle est envoyée à un journal de New York, et... un mystérieux Zodiac, mais est-ce le même, annonce qu'il va tuer 12 personnes en les choisissant ses victimes selon les signes du Zodiac.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors on imagine, Stéphane Bourgoin, ces deux années, 1968-1969, dans la région de San Francisco, avec une psychose latente, des gens qui écrivent à la police pour dénoncer leurs voisins, leurs copains de quelquefois de sport, voire des membres de leur famille, persuadés qu'il s'agit du Zodiac parce que l'écriture de tel ou tel ressemble à ce qui est publié dans la presse. Évidemment, la police, ben, elle fait son boulot, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une dénonciation, elle vérifie. Et à chaque fois qu'elle vérifie, eh bien, elle est obligée d'arriver à la conclusion que ça n'est pas le bon candidat. 15 jours après l'épouvantable histoire qu'on a racontée il y a un petit instant, nous sommes le 11 octobre 1969. Et cette fois, ça va se passer dans la ville de San Francisco. Un jeune chauffeur de taxi prend un passager et ce passager va l'agresser, le détruire, et il va y avoir des témoins, des jeunes gens notamment qui sont en train de faire une fête de l'autre côté de la rue, qui voient ce qui se passe.
Oui, alors jusqu'à présent les meurtres avaient toujours lieu en pleine campagne et là...
Là, c'est en pleine ville.
En pleine ville, près de la base militaire du Presidio. Il y avait eu un film d'ailleurs célèbre avec Sean Connery qui s'appelait Presidio. Il ne faut pas oublier que San Francisco, à cette époque-là, sortait tout juste d'une affaire de tueur en série où il y avait eu des dizaines de victimes, des hommes de race blanche qui avaient été tués par arme à feu. Là aussi par un tueur, un groupe de tueurs cette fois-ci qui signait Zebra.
D'accord.
Et qui ont été arrêtés par la suite. Donc San Francisco était en proie à la panique dans toutes ces années 60, fin des années 60, début des années 70. Et le chauffeur de taxi, Paul Stein, est abattu de plusieurs balles dans la tête. Et l'assassin a emporté sa chemise ensanglantée comme
témoins,
une sorte de trophée.
Les témoins le voient découper une partie de la chemise, la tremper dans le sang et partir avec.
Oui, ça c'est trois adolescents qui sont non loin de là, qui voient le tueur s'enfuir.
Alors ils appellent la police et là il va y avoir ce qu'on appelle pudiquement un dysfonctionnement terrible du régulateur, quoi, de la police, qui comprend mal, qui comprend d'abord que c'est un noir qui a fait le coup, alors que les mômes ont dit mais c'est un blanc, il fait plus d'1m75, il fait 90, enfin bref, c'est la description du Zodiac. Et les premiers policiers en patrouille qui arrivent voient passer en fait Zodiac.
Voit passer Zodiac et le policier qui
lui parle,
qui ne conduit pas, lui adresse même la parole et en donnera une description qui ressemble, mais très très pour trait, à celle du portrait robot qui a déjà été publié précédemment.
Et quelques jours
on
plus tard,
on peut penser que cette confusion vient justement du fait que San Francisco est en proie à la panique, avec des hommes noirs qui ont tué des hommes de race blanche dans la ville, les fameux Zebra Murders. Donc les policiers au standard ont peut-être effectué cette confusion.
Voilà. Alors ce qui fait d'ailleurs que quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, quand le Zodiac va encore écrire à la presse, il va se moquer des flics, évidemment, en les appelant, je sais plus comment, enfin, comme on les appelle dans certaines bandes dessinées, je crois, aux États-Unis, hein, bon, ici, on dirait les hommes en bleu, quoi, et il va dire, mais ils sont pas malins, quoi, ils ont pas fait leur boulot, moi j'étais caché à côté, il décrit tout. Bon. Alors, il y a cet événement-là, et il y a quand même peut-être besoin maintenant d'une explication que vous pouvez peut-être nous donner, parce que tout le monde s'est dit, bien, jusqu'à présent, il a tué des couples. Pourquoi sa victime suivante, puisqu'on est sûr que c'est lui, le Zodiac?
On est sûr que c'est le Zodiac parce que, par la suite, outre les communications à la police, il écrit à plusieurs reprises un journaliste qui est chroniqueur au San Francisco Chronicle, qui s'appelle Paul Avery, et à qui il envoie un morceau découpé de la chemise ensanglantée
comme
du
preuve,
chauffeur de taxi.
Ouais.
Donc là, on est tout à fait certain qu'il s'agit à nouveau du tueur du Zodiac. Et 10 jours plus tard, le 21 octobre 1969, il téléphone à la police d'Oakland, qui est non loin de San Francisco, qui est un quartier de San Francisco, pour dire qu'il va se rendre aux autorités, mais uniquement s'il peut être représenté par deux des plus grands avocats au pénal américain. Lee Bailey, qui a notamment à l'époque défendu l'étrangleur de Boston, des Salvo, mais qui n'est pas disponible parce qu'il est en voyage en Europe, et un autre avocat criminaliste très célèbre, Melvin Belli.
Alors ça, c'est important, retenez bien ce nom, Melvin Belli, parce que cet avocat, qu'il n'a pas contacté hein, quand même, va recevoir une lettre. Cette lettre est signée de Zodiac. Et cette lettre ne ressemble à aucune des lettres que le tueur a envoyées aux journaux jusqu'à présent. Cette lettre, c'est un véritable appel au secours. Aidez-moi.
Oui, aidez-moi, je ne peux pas me contrôler, je vais tuer à nouveau. Voilà l'essentiel du message qui est envoyé à Melvin Belli. Ouais. Mais il reste malgré tout des doutes sur l'authenticité de ce courrier.
Ouais.
Parce que d'après des graphologues, ce ne serait pas la même main qui a tracé ce message que tous les messages précédents.
Alors, Stéphane Bourgoin, je sais que vous n'êtes pas 100% convaincu de ce que je vais dire, mais je profite de ce moment du récit pour sortir ma carte. À propos de cet appel au secours, et en imaginant que c'était bien le Zodiac qui écrivait, et en constatant l'énorme différence de ton entre les lettres précédentes et celle-là, un psychiatre va émettre une hypothèse. Alors, j'allais dire folle, non, pour un psychiatre, ça ne serait pas correct de le dire. Une hypothèse extraordinaire. Il dit, voilà, cet homme-là, c'est quelqu'un qui est un psychopathe, victime d'une double ou triple personnalité, enfin, de personnalité multiple. Et il mène un combat, cette personnalité mène un combat, c'est comme le docteur Jekyll et Mr. Hyde, depuis des années. Et c'est toujours le méchant qui tue. Mais là, celui qui appelle au secours, c'est Jekyll. Et il se trouve qu'après cette lettre, il n'y aura plus de meurtre. Et donc, ce psychiatre est persuadé d'avoir trouvé la solution. Je sais que ce n'est pas la vôtre. Parce qu'il y a eu quand même, derrière, une tentative qui pourrait aller dans mon sens. Hein.
Tout à fait. C'est une hypothèse qui peut être tout à fait valable. Ce qui va à l'encontre de cette hypothèse, c'est qu'il continue cette communication avec l'avocat Melvin Belli, qui accepte de parler au Zodiac, mais, chose incroyable, en direct, dans un show télévisé. Il lui fixe rendez-vous, et juste avant ce show télévisé, Melvin Belli reçoit un appel qu'il estime être du Zodiac, où ils ont parlé pendant près de 15 minutes.
Alors, Stéphane Bourgoin, il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. On va faire l'impasse complètement sur ce qu'on appelle le copycat, sur le copieur, sur l'imitateur de New York. C'est une autre histoire, on fera peut-être une autre émission là-dessus si vous voulez bien. Mais il faut dire maintenant que Zodiac a continué à écrire jusqu'en 1978, c'est-à-dire 10 ans après son premier meurtre. Et puis qu'il a cessé d'écrire. Et en 1990, il y a eu effectivement ce copieur, mais qui a été arrêté à New York. Il était juste fasciné par le vrai Zodiac, si j'ose dire. Alors maintenant, c'est peut-être le moment de dire que il y a eu un certain nombre de gens qui ont été dans le collimateur de la police. Pourquoi est-ce que la police n'a jamais pu aboutir ?
Alors déjà, sa dernière communication, je reviens dessus, 24 avril 1978, il dit je suis de retour. Il n'y a jamais plus d'autres meurtres. Mais avant, dans une autre lettre extrêmement inquiétante, il menace de prendre les enfants pour cible.
Et de faire sauter un bus scolaire. Avec une bombe, oui.
Et d'ailleurs, Clint Eastwood et le cinéaste Don Siegel, dans le premier Inspecteur Harry, reprend tout à fait le personnage du Zodiac et cette affaire du bus scolaire, sauf que le tueur...
Qui n'a pas été rendu public tout de suite,
oui,
à la demande de la police, hein, c'est ça, ouais.
Oui, oui, c'est bien avant le film de David Fincher.
Grosso modo, enfin, vous les connaissez évidemment, tous les candidats, les suspects numéro 1, 2 et 3 de cette histoire.
Alors, il y a 2500 personnes qui sont interrogées et qui sont suspectées à un moment d'être le Zodiac.
Ouais.
Mais en fait, une seule personne a été mise en garde à vue. C'est la personne qui est citée sous le nom de Star dans le roman de Grace Smith. Je dis bien le roman,
oui,
et pas le document, oui, de Robert Grace Smith.
Présenté comme une
loquette,
mais bon,
au cinéma, ouais, par David Fincher, parce que Grace Smith prétend que le Zodiac a tué 49 personnes un peu partout à travers les États-Unis. Mmh. Mais il l'accuse, entre autres, dans le livre, d'avoir commis deux crimes à 600 km de distance et les crimes ont été commis à la même heure.
Ouais.
Donc c'est un livre qui ne tient pas vraiment debout. Le suspect principal, c'est Arthur Leigh Allen, qui est décédé en 1992.
Alors lui, c'était un bon candidat. Hein,
oui, qui était connu.
Le cinéma, il aurait pu connaître les chasses du comte Zaroff.
Fanatique et collectionneur d'armes à feu.
Voilà, qui a fait du décryptage pour l'armée.
Pour l'armée, ouais. Condamné aussi pour des faits de mœurs, notamment de pédophilie. Qui a été dénoncé à l'époque par des voisins, mais scientifiquement,
son ADN,
ses empreintes ne correspondent pas du tout à tout ce qui était retrouvé sur les lettres et sur les lieux des crimes.
Alors, cette affaire a continué jusqu'en 2008 et 2009. 2008, un monsieur qui s'appelle Denis Kaufmann accuse son beau-père d'être le tueur, il s'appelle Jack Tarrance. Et en mai 2009, une femme, et c'est le dernier rebondissement en date de cette histoire incroyable, non ? Ah bon ? Ben alors, très très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps, je dirais que Déborah Pérez accuse son beau-père, qui est mort dans les années 80, d'être le tueur.
Oui, mais
quelle est la dernière ?
Cette Déborah Pérez avait prétendu aussi être la fille du président Kennedy.
D'accord. Bon. Alors, la dernière... ça limite l'intérêt qu'on porte à son témoignage.
Alors, dernière hypothèse.
Si vous avez une dernière hypothèse, c'est 20 secondes.
C'est celle de Steve O'Dell, celui qui a écrit de célèbres bouquins sur le Dahlia noir,
qui
prétend que son père, George O'Dell, non seulement a commis le meurtre du Dahlia noir, mais quasiment tous les crimes en série commis aux États-Unis entre 1946 et les années 70. Et il accuse son père d'être aussi le tueur du Zodiac, ce qui semble être totalement ridicule.
Alors, on renvoie, voilà, on est revenu au point de départ quand je vous disais que c'était l'un des plus grands mystères criminels de la fin du XXe siècle aux États-Unis. Si vous voulez en savoir plus, vous lisez le livre de Stéphane Bourgoin, publié cet été chez Grasset, Serial Killer, enquête mondiale sur les tueurs en série, les questions du Zodiac. Merci beaucoup, Stéphane Bourgoin.
Merci à vous, Jacques.
À la prochaine, car vous avez pratiquement votre ronde serviette dans cette émission sur RTL. Et dans un petit instant, c'est Flavie Flamand qui va venir nous rejoindre.